France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les studios de guitare. Je suis ravi de vous retrouver chaque semaine sur France Musique. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord découvrir ensemble le dernier enregistrement de la guitariste franco-britannique Laura Snowden. Cette ancienne étudiante de Julian Bream mène une carrière bien à elle, très personnelle. Elle perpétue en quelque sorte et à sa manière la tradition de son mentor. Et la tradition de Julian Bream, c'était d'être en mouvement, d'être à l'écoute de son époque, de toucher à plusieurs univers, d'être actif dans la création et l'interprétation des musiques de son temps. Et c'est précisément ce que Laura Snowden développe au fil de sa carrière. Ensuite, nous recevrons le prodige français signature du label Deutsche Grammophon, Raphaël Feuillâtre. On écoutera sa musique, on s'entretiendra avec lui, il se chargera de notre rubrique Guitare de légende en fin d'émission à 14h20. La semaine prochaine, nous recevrons le grand Dominic Miller, guitariste passionnant, connu pour être le bras droit de Sting. Et lorsqu'on lui demande si ça lui arrive d'écouter en ce moment un peu de guitare classique, il répond ceci. Oui, il y a ce jeune signé sur Deutsche Grammophon, il a un super rythme, il fait chanter les mélodies, une sonorité magnifique, il est très fort. Et donc je l'adore et je le déteste à la fois. C'est quand même très chic d'être détesté de cette façon. Allez, on commence tout de suite en musique et tout en douceur avec les notes de Laura Snowden.
Thank you.
de Laura Snowden. On écoutait The Changing Sky, un extrait de son dernier disque du même nom. Un univers un peu éthéré, des harmonies ouvertes, beaucoup d'espace et surtout une identité bien à elle. Elle peint des paysages sonores un peu envoûtants, hypnotisants, avec des cellules répétitives qui évoluent doucement et qui se mélangent avec la voix et avec des effets d'harmonique. Le jeu est clair et direct. La sonorité riche et sophistiquée. Dans le reste du disque, on découvre d'autres ambiances qui viennent compléter sa palette expressive. On écoute ensemble deux autres extraits.
Eyes wide open, freckles dancing, yellow hairband in a high top knot, shoes laced tightly, unaware. She steps into the dragon's lair.
Answer. I am the mirror.
Laura Snowden a des choses à raconter. Dans le premier extrait, The Parting Glass, qui se traduit, je crois, par le verre d'adieu en français, on découvre une musique très tendre, guidée par une mélodie chantante et douce qui pourrait être celle d'un traditionnel irlandais, par exemple. Alors qu'au contraire, dans The Dragon's Lair, le repère du dragon, elle explore une veine plus expérimentale avec un texte raconté et des accords tout en rythme et en saccade. Une musicienne inventive et raffinée à découvrir. Le disque s'appelle The Changing Sky et vous pouvez le commander ou l'écouter directement sur le site de l'artiste laurasnowden.co.uk. Elle écrit également des arrangements comme cette Vie en rose interprétée par Alexandra Whittingham pour le label Decca. Alexandra Whittingham, dans son disque Letters from Paris, jouait cette Vie en rose, arrangée par Laura Snowden. Dans cet enregistrement sorti sur le label Decca, un programme inspiré par la ville Lumière, on y trouve notamment cette version pour deux guitares de la valse numéro 6 de Reynaldo Hahn. Thank you. Pour servir cette valse de Reinaldo Hahn, Alexandra Whittingham est accompagnée de Stephanie Jones. C'est un extrait du disque Letters from Paris et le répertoire n'exclut pas la variété française la plus récente. Et d'ailleurs, je suis sûr que vous allez reconnaître cette chanson de Barbara Pravi arrangée ici pour guitare et violoncelle. Alexandra Whittingham à la guitare et Margarita Balanas au violoncelle dans Voilà, la chanson de Barbara Pravi.
France Musique, guitare. Sébastien Linares.
Allez, on va maintenant consacrer cette deuxième partie d'émission à Raphaël Feuillâtre, jeune guitariste d'à peine 30 ans, artiste Dutch gramophone, un musicien qui impressionne par sa virtuosité, sa sonorité et ses interprétations intenses. Et je vous propose, avant de l'accueillir à nos micros, d'écouter quelques extraits de son dernier disque Spanish Serenade, un bouquet de miniatures des préludes de Francisco Targa.
Thank you.
Bonjour Raphaël Feuillâtre.
Bonjour Sébastien.
Merci beaucoup d'être à nos micros, on est ravis de vous avoir. Et merci aussi d'avoir enregistré ces petits préludes que j'adore, qui sont des petits bijoux, des petites miniatures comme ça. Qu'est-ce qui vous a donné envie de les enregistrer dans ce disque ?
Eh bien, j'avais pour ce disque l'envie d'enregistrer sur des guitares de Torres. Et bien sûr, ces préludes qui sont... pas oublié, mais très peu joué.
C'est ça, c'est peu fréquenté quand même, en fait.
Et oui, autant dans les conservatoires que, bien sûr, après dans les concours, puisqu'ils sont considérés comme trop faciles. Et donc, c'était pour moi une joie absolue de pouvoir les jouer, les découvrir, les redécouvrir. Et je les trouve extrêmement chargés de lyrisme. Et ces préludes répondent dans l'album aux chansons populaires catalanes qui sont elles-mêmes imprégnées de lyrisme. Et...
Alors parlez-nous un peu du programme, de la conception de programme donc de ce dernier album, Spanish Serenade, c'est ça ?
Oui.
Vous alternez des pièces très connues, différents styles, avec comme colonne vertébrale la musique espagnole. Comment ça s'est construit ce programme ?
Eh bien, tout est parti du concerto d'Aranjuez, que j'avais bien sûr très envie d'enregistrer. Et puis tout autour, je voulais absolument mettre les œuvres qui m'ont énormément marqué dans mon enfance, qui m'ont fait aimer la guitare. Et c'est un petit peu un message et puis une sérénade que j'offre à travers cet album. Je pense que c'est l'album qui m'a le plus passionné à enregistrer. Mmh. Et bien sûr, il y a eu toute cette recherche de guitare historique.
D'accord, expliquez-nous ça. Donc vous jouez suivant les pièces et les périodes sur des guitares un peu de l'utilité.
Différentes, complètement. Il y a une Santos Hernandez et puis deux Torres que j'ai pu jouer. C'est absolument extraordinaire. C'est une façon, bien sûr, de se mettre au service de la musique. Et... C'est tout un univers sonore, des couleurs qui s'ouvrent. Et il y a toujours cette recherche d'authenticité, de son, quand on est interprète. Ouais. Et je trouve que ces guitares vraiment permettent, de manière très naturelle et intrinsèque, de pouvoir retransmettre cet univers sonore qu'avaient les compositeurs.
Et est-ce qu'on est un peu aussi au service de l'instrument, finalement ? Parce que les paradigmes de jeu sont différents et on va chercher des sons différents. Est-ce que vous avez modifié, vous, finalement, un peu votre manière de jouer suivant les...
Complètement.
Ouais.
Et justement, j'ai eu quelques temps en amont de l'enregistrement avec ces guitares, puisque j'ai dû les essayer. Je me suis rendu compte que je jouais de manière très différente et je me suis dit que je voulais pas préparer trop ces œuvres. Je pense aux chansons populaires de Liobet et les préludes, notamment, parce que le jeu est extrêmement différent. Ça chante beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus sensible à la main gauche, à la main droite également.
Ouais, ouais.
Et ça permet de vibrer beaucoup plus. Le rubato est différent, la façon de phraser est différente. Et donc c'est vraiment une façon très naturelle, je trouve, de faire de la musique d'une manière authentique.
Alors, vous êtes artiste au sein d'une grande maison de disques, Deutsche Grammophon. Le marché du disque est pour le moins en difficulté en ce moment. Comment est-ce que vous projetez, parce que vous êtes jeune, donc vous avez toute une carrière, vous allez sortir encore plein d'albums. Comment est-ce qu'on pense ces choses-là ?
Eh bien, j'ai l'impression qu'on a une chance, en tout cas en tant que guitariste, que cet instrument est très écouté au niveau des streamings. Et... Donc, je pense qu'il n'y a pas une réelle inquiétude pour nous. En revanche, bien sûr, le disque, il va falloir arriver à l'abandonner petit à petit.
C'est ça.
Ce qui est assez triste, je trouve. Mais voilà, on peut dire un gros marché du streaming et je pense qu'il y aura toujours une possibilité d'enregistrer tout le répertoire de la guitare et des nouvelles œuvres également.
Est-ce que vous pensez, moi je suis d'une autre génération que la vôtre et à chaque fois que je construis un projet, je le pense en fonction de la durée d'un album. Pour moi, et même au début que j'écoutais mes disques, il y avait la face A et la face B presque.
Ah oui.
Et je pense encore les choses comme ça, comme une espèce de tout qui fait la durée de l'album. Est-ce que dans votre génération, il y a encore finalement ce rapport-là ou c'est est-ce que pièce à pièce.
C'est super intéressant. Je l'ai eu, j'ai toujours eu, et maintenant j'ai le sentiment que ça change.
Commencez à vous en détacher ?
Je commence à m'en détacher, okay. La possibilité de faire des EP très facilement et de faire des singles. Et ça permet aussi, quand on a des projets, de ne pas forcément en faire tout un disque avec une grosse promotion derrière, mais de pouvoir aussi enregistrer des moments musicaux et des projets plus ponctuels. Et je trouve que ça a aussi énormément de sens d'avoir cette spontanéité dans le parcours d'un musicien.
Vous avez fait vos armes dans les concours internationaux. Vous avez gagné le fameux concours GFA de New York. Et après, il y a eu plein de concerts. Est-ce que l'expérience de la scène, ça a transformé aussi votre jeu ? Comment est-ce que finalement, on n'apprend pas à être interprète sur scène ? Est-ce que les deux se complètent ? Comment ça se passe ?
C'est une question très complexe.
Oui, je sais.
De mon expérience, oui. Il y a une forme de désacralisation peut-être de la scène à force d'y être. Et donc un naturel peut-être qu'on peut gagner. Une façon de s'exprimer plus naturelle. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui a changé dans mon jeu, dans ma façon de considérer le concert et la musique. Après, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'imprévus. Ça reste quand même quelque chose de très vivant. Et c'est toujours quelque chose de nouveau.
Alors, vous avez aussi sorti un disque qui s'appelle Visage baroque. Vous jouez donc la musique baroque avec un rapport à l'ornementation, avec un phrasé particulier et tout. Comment vous avez abordé cette musique ? Vous avez étudié en particulier ou...
Alors, j'ai, dans un premier temps, énormément écouté ces musiques depuis très jeune, en fait. La musique baroque française en particulier me touchait vraiment beaucoup. Et j'ai écouté énormément d'heures de musique au clavecin. Et bien sûr, une fois à la guitare, dans la mesure où on joue des arrangements, il faut arriver à se détacher un petit peu quand même des ornements et du... évidemment, on cherche à être fidèle à la partition, mais si on veut l'être trop, ça devient trop peu naturel. Ouais. Et donc, ça laisse une certaine forme de liberté et de créativité, et notamment dans la recherche des ornements. Et c'est ça que je trouve absolument inouï. Mais évidemment, dans mon oreille, j'ai énormément de types d'ornements. J'essaye, dans mon travail, de les improviser et de voir aussi où ils peuvent se placer et où ils fonctionnent, puisque l'inverse, parfois, peut être... Ouais, un peu rude.
Bah écoutez, en tout cas, c'est très réussi. Merci beaucoup d'avoir été ici à nos micros. Et on se retrouve donc dans quelques minutes pour votre guitare de légende.
Thank you.
Magnifique transcription de cette pièce pour le clavecin composée par Jacques Dufly et réinterprétée par la guitare de Raphaël Feuillâtre, un extrait de son album Visage Baroque, sorti aussi sur le label Deutsche Grammophon, une partition en forme de rondo un peu tendre intitulée La Forcrée, comme le violiste et compositeur de ce Carillon de Passy.
Thank you.
Le théorbe de Caroline Delhume et la harpe de Constance Luzzatti dans cette pièce de Jean-Baptiste Forqueray. Le disque s'appelle Jupiter, il est sorti chez nos amis de Parati et on peut y entendre également du François Couperin, du Jacques Dufly, du Pancras Royer par exemple. Et c'est un véritable théâtre instrumental qui prend vie sous les doigts de ses musiciennes. Vous écoutez du théorbe et de la harpe en duo sur France Musique et il est 14h20.
Guitare de légende, Sébastien Linares.
À nos micros aujourd'hui, Raphaël Feuillâtre.
Bonjour à toutes et à tous et merci Sébastien pour ton invitation. C'est en Espagne que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui avec l'une des œuvres les plus emblématiques du répertoire de la guitare, Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega, compositeur phare considéré comme le père fondateur de la guitare moderne. Cette pièce est pour moi une véritable Madeleine de Proust. Pendant mon enfance, l'une de mes activités favorites était d'écouter des albums de guitare, en particulier ceux d'Alexandre Nagoya, qui était mon idole. Bien sûr, Recuerdos me fascinait et m'hypnotisait complètement. Je l'écoutais en boucle et je me demandais comment on pouvait produire un tel effet avec une guitare. J'ai tout de suite eu envie d'essayer, de comprendre par moi-même, et il m'a fallu à peine quelques heures, malgré les grandes difficultés de la pièce, pour réussir à la jouer en entier, tellement j'étais fasciné. Pour tenter de percer ce mystère et cette fascination, je peux évoquer l'utilisation du trémolo tout au long de l'œuvre. À la guitare, il s'agit de répéter très rapidement les doigts annulaire majeur index de la main droite, pendant que le pouce joue l'accompagnement, et cela crée une véritable illusion de chant suspendu au-dessus d'un tapis harmonique. Présent tout au long de la pièce, ce trémolo donne un support constant à une émotion douce qui semble ne jamais s'éteindre. Bien d'autres compositeurs ont su utiliser cette technique dans le répertoire de la guitare, laissant des œuvres absolument sublimes. Je pense par exemple à La Rêverie de Giulio Regondi, à Un sueño en la floresta d'Augustin Barrios Mongoré, ou encore à Invocazioni danza de Joaquín Rodrigo. Mais Recuerdos est, je crois, l'œuvre qui est la plus inspirée et la plus naturellement habitée par cette écriture. Tárrega l'a composée après avoir visité le palais de la Alhambra à Grenade, en Andalousie. Il a été profondément marqué par la poésie du lieu, les jardins du Generalife, les fontaines, l'architecture mauresque, et il a voulu traduire en musique cette impression de mystère et de douceur. Au fond, cette œuvre est littéralement un souvenir de l'Alhambra. Elle évoque le murmure continu des fontaines et ce temps suspendu qui semble régner dans ce palais chargé d'histoire par un chant intérieur, intime et presque infini. Thank you.
C'était Raphaël Feuillâtre, dont vous pouvez réécouter la dernière sortie sans modération sur Deutsche Grammophon. Ça s'appelle Spanish Serenade. Guitare Guitare était aujourd'hui réalisé par Patrick Lérissé, enregistré par Cédric Châtelus et préparé avec l'aide de Nelly Portal. La semaine prochaine, une émission événement, une spéciale Dominique Miller, le guitariste de Sting, entre autres. Et d'ici là, eh bien, rendez-vous sur le site et l'appli Radio France si vous voulez vous abonner au podcast, regarder les vidéos, consulter les programmes en détail et nous écrire.
France Musique.